La diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission du samedi, une émission pour laquelle toute la rédaction française de Radio Prague vous propose trois rubriques. Cette émission vous est présentée aujourd'hui par Anna Kubishta. Le Grand C, tel est le nom du spectacle de la compagnie XY, une troupe française invitée de la 8e édition du festival de Nouveau Cirque, Letni Letna. Poétique, onirique, extrêmement physique, impliquant une discipline de fer, le spectacle met en scène 17 acrobates qui enchaînent les figures les plus improbables, formant de périlleuses pyramides humaines. Cet entretien a été réalisé en collaboration avec notre collègue Veronika Majerova de Radio Wave.
Culture sans frontières.
Antoine Billot est le manager de la compagnie XY. Il nous explique comment fonctionne la troupe, s'il y a un chef d'orchestre qui dirige les acrobates pendant leur spectacle. Antoine Billot.
L'enjeu de ce spectacle-là, c'est qu'il n'y ait précisément pas de chef. Pas de chef du tout, puisque l'idée, c'est d'avoir créé un spectacle collectif qui parle du vivre ensemble et qui met absolument tout le monde sur un pied d'égalité. Après, dans la réalité, il y a différentes générations d'acrobates qui se retrouvent sur ce plateau. Il y a des jeunes qui ont une vingtaine d'années, d'autres qui ont plus de 45 ans. Je crois qu'on les repère assez facilement dans le spectacle. Et il est certain qu'au début de ce projet, il y a quand même l'histoire d'un homme qui s'appelle Abdelyazid Senadji, qui est donc le plus ancien de la bande, qui est acrobate depuis 25 ans et qui enseigne dans une école dans le nord de la France. Et qui a enseigné finalement à tous les autres artistes qui sont sur le plateau, ou pratiquement tous les autres artistes qui sont sur le plateau. Donc c'est aussi un spectacle qui raconte, même si on s'en rend pas immédiatement compte tout de suite, que c'est un spectacle qui est aussi basé sur la transmission d'une technique, d'un savoir-faire et d'un art aussi. Et ce spectacle n'aurait pas eu lieu sans la présence de cette personne, mais il a véritablement choisi de s'effacer, ou en tout cas de se fondre dans le collectif. C'est vraiment tout l'enjeu de cette création.
Comment fonctionne un ensemble comme la compagnie XY? Comment est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez tous ensemble tout le temps? Combien de temps vous passez sur les routes, en tournée?
Ce qui est important de dire, c'est que ce qui rassemble vraiment tous les acrobates, c'est la notion de travail au plateau, de travail autour d'une discipline artistique. Et c'est ça qui fait que les gens sont ensemble. Il n'y a pas, au départ, une communauté qui s'est formée entre des personnes qui ont choisi un mode de vie. C'est pas le choix d'un mode de vie, c'est le choix d'un travail en commun. Après, la réalité de ce spectacle, c'est que c'est un spectacle qui fonctionne merveilleusement bien et on en est très heureux. Donc, on va dire qu'en moyenne, ils sont à peu près 8 mois de l'année ensemble, voilà, depuis 2 ans et demi maintenant.
Combien de temps, en fait, avez-vous préparé le spectacle Le Grand C avec lequel vous tournez depuis 2 ans et demi?
En tout, il y a eu 2 ans de... Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans, même si toute la première année, il s'agissait plutôt de rencontres techniques autour de la technique de cirque, où Abdelyazid Senadji, justement, invitait toute une série d'acrobates avec qui il avait pu collaborer, soit à l'école, soit d'autres acrobates qui étaient déjà professionnels. Et il y a comme ça une trentaine ou une quarantaine d'acrobates qui sont passés sur des espèces de temps comme des conventions, mais totalement informelles, qui se passaient dans un gymnase, qui durait quelques jours. C'était des invitations très très informelles. Et il y a eu des petits séminaires comme ça de portée. Mais il n'y avait pas vraiment d'objectif très précis, si ce n'est de prendre du plaisir, parce que c'est avant tout un plaisir, c'est ce qu'ils font, ils adorent le faire. C'était de prendre du plaisir à essayer de faire des choses à plusieurs. Il y a une chose importante à noter pour les auditeurs, j'imagine, c'est que c'est une pratique normalement le main à main qui se pratique à deux, avec un porteur et une voltigeuse qui est souvent une femme, et qui nécessite généralement plusieurs années de travail pour réussir à acquérir une technique de cirque. Et là, l'idée d'inviter plusieurs acrobates, plusieurs dizaines d'acrobates en même temps, c'était de pouvoir tester des choses qu'il était absolument impossible de tester avant. Et c'était ça la vraie nouveauté en termes de technique de cirque. Donc il y a eu une sorte de matière technique physique, un espèce de langage corporel totalement original, totalement nouveau, parce qu'il y avait plusieurs acrobates ensemble qui a commencé à émerger, une espèce de matière brute comme ça. Et là, le deuxième partie du travail, là où ils sont véritablement rentrés en création, où ils ont travaillé sur la question artistique, là, pour le coup. Qu'est-ce qu'on raconte avec cette matière physique? Qu'est-ce qu'on raconte avec ce langage? Quel message on veut faire passer? Quelle vision du monde on veut faire passer? C'est un processus qui s'est déroulé en continu, avec au départ 18 acrobates, pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ils ont vécu en vase clos, tout le temps ensemble. Ça peut ressembler un petit peu au travail du sculpteur ou du peintre. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans le public qui disent des fois avoir vu une sorte de tableau vivant en regardant le grand C. C'est-à-dire que le peintre mélange ses couleurs, prépare son matériel pendant très longtemps, de la même manière que le sculpteur va préparer sa terre. Et cette matière technique dont je parle, c'est un peu ça, c'est un peu le matériau de base, ce sans quoi les artistes ne pourraient pas s'exprimer.
Le spectacle dure 70 minutes, ça commence de manière assez légère, il y a une forme de gradation, et dans la deuxième partie, le tempo est beaucoup plus rapide. Comment est-ce que les artistes s'orientent pendant ces 70 minutes? Ça doit être extrêmement difficile justement de s'orienter, de savoir qui fait quoi et à quel moment, et pour que les enchaînements soient possibles.
Mais là, pour le coup, c'est un peu comme dans la danse, c'est-à-dire qu'ils ont des partitions très très écrites, ils ont une sorte de chemin, en fait. Un chemin qui est semé d'embûches, si on peut le voir comme ça, ou semé de moments acrobatiques. Ils ont un parcours très précis à faire sur le plateau, des fois même des sorties de plateau, des rentrées sur le plateau, même s'ils sont toujours à vue. Je sais pas si les gens qui vont le voir, c'est une dimension importante du spectacle. Tout est à vue, mais ils ont un chemin très précis à faire et qui aujourd'hui, c'est là où c'est intéressant de le présenter après pas mal de temps ici à Prague, c'est que le spectacle, ils l'ont, il y a une réelle mémoire du corps, comme chez les danseurs, qui fait qu'ils n'ont plus du tout à réfléchir à leur parcours. Ça se fait quasiment tout seul. Voilà.
On va parler maintenant un petit peu de la musique, puisque en fait dans ce spectacle Le Grand C, il y a des moments, enfin il y a un accompagnement musical. Le cirque travaille de manière différente avec la musique, par exemple si on compare avec le ballet ou d'autres disciplines. Dans Le Grand C, on a à la fois de la musique qui est diffusée, enregistrée et qui est diffusée, mais également les acrobates chantent. Et parfois siffle, ce qui doit être très difficile pendant les acrobaties. En fait, quel est le rôle de la musique dans le spectacle et pourquoi cette musique?
Le rôle de la musique, c'est de donner un rythme vraiment au spectacle. Il y a une chose aussi importante dans ce spectacle, c'est qu'il y a aussi beaucoup de moments de silence. Ça, c'est quelque chose à noter, pendant lesquels les marches sur le plateau ou les colonnes qui se construisent se font de manière très très calme, très douce et très lente. Et c'est quelque chose auquel ils étaient très attachés, de travailler sur cette lenteur et non pas sur l'énergie ou l'explosion. Alors après, l'idée de départ était de travailler avec de choisir un musicien qui s'appelle Marc Perron, qui est un accordéoniste, mais qui joue avec des accordéons qui sont très particuliers, et qui joue aussi avec le coffre de l'accordéon, le bois, pas simplement faisant souffler de manière traditionnelle son instrument. Et c'était la partie peut-être un peu dur de la création, puisque c'est un musicien qui est atteint de sclérose en plaques, qui a beaucoup d'arthrose, qui a un talent fou, mais qui est souvent dans l'incapacité de pouvoir jouer. Il devait être présent avec nous en permanence sur la création pour pouvoir regarder la façon dont la matière artistique se crée et composer et s'inspirer et composer la musique à partir de ça. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous. C'est une période où il a été très malade. Il va beaucoup mieux maintenant, je vous rassure, mais et donc il a créé plutôt à partir de bandes vidéo des musiques qui collent vraiment au spectacle, mais on va dire que les artistes se sont autant adaptés à la musique que la musique s'est adaptée au spectacle.
Ce spectacle évidemment est plein de moments très très dangereux, hein, d'une certaine manière, puisqu'il les acrobates forment des pyramides humaines. Quels sont les moments un peu clés qu'il ne faut pas rater pendant le spectacle, et également quels sont un peu les moments cruciaux en fait de ce spectacle, et puis également quels sont les risques qu'encourent les artistes?
Bah évidemment, les moments les plus risqués ou les plus dangereux pour les artistes sont les moments où la hauteur est la plus grande. Quand il y a des colonnes humaines qui se montent à 4 personnes, ils sont à la dernière personne est à 7 mètres de haut. Donc il est évident que quand elle tombe, elle prend toujours le risque de se faire mal, même s'il y a tout un système de parade qui est organisé de manière assez esthétique, puisqu'on voit les bras qui se lèvent comme ça autour des colonnes, et c'est généralement assez joli. C'est évidemment les moments les plus risqués. Après, je dirais que l'effort est quand même très différent selon les artistes, puisqu'il y a les, il y a ce qu'on appelle les porteurs, ceux qui sont vraiment en bas des colonnes, les plus forts, les plus costauds, qui sont dans un engagement physique total, très intense, et qui doivent porter et tenir. Voilà. Et puis après, il y a ceux qui sont au-dessus, qui peuvent aussi porter, puisque les colonnes sont à plusieurs étages, mais il y a, tout en haut, il y a les voltigeuses qui effectuent aussi des péripéties, enfin, des sauts périlleux, des choses comme ça, où là, pour elles, il ne s'agit pas de tenir, il s'agit plus de pouvoir s'abandonner en totale confiance à l'autre, parce que c'est pas tellement... Elles sont habituées à effectuer les sauts périlleux, simplement à 6 mètres de hauteur, la question qui se pose, c'est celle d'avoir confiance, et elles doivent absolument avoir et trouver cette confiance en elle, et c'est peut-être ça qui est le plus périlleux, beaucoup plus que l'exercice en tant que tel.
Le spectacle dure 70 minutes. Comment est-ce qu'au cours de ces 70 minutes et de ce spectacle constant, les artistes peuvent-ils un peu se reposer pendant le spectacle, puisque certains, par exemple, en effet, portent trois fois un poids humain. Comment est-ce qu'ils y parviennent au cours du spectacle? Ce qui est surprenant, c'est que ils n'ont pas de bandage, pas de blessure. Comment est-ce que c'est possible?
Il y a des blessés dans ce spectacle-là. Parmi les 17 acrobates du départ du projet, là dans ce qui est le spectacle qui est présenté ici à Prague, il y a trois remplaçants, si on peut les appeler comme ça, même si on n'est pas une équipe de foot, des fois ça peut ressembler à ça, mais ça n'est pas ça. Donc il y a des blessures qui sont jamais des blessures très très graves, mais qui peuvent handicaper pendant quelques semaines. Donc on a finalement dans ce collectif on a au moins 5 ou 6 artistes qui ont été formés pour pouvoir faire ces remplacements. Puis il y a une chose à savoir quand même, c'est que les artistes, c'est vrai de tous les artistes de cirque, mais des acrobates en particulier, ils vivent en permanence avec des petits bobos, des petites blessures, des petits frottements, des problèmes aux genoux, aux coudes, un muscle froissé. Et c'est un métier qu'on exerce un peu dans la douleur, mais un peu comme dans la danse classique. Enfin, il y a quand même cette notion du rapport à la souffrance qui est totalement intégrée à leur travail, en fait. Et pour finir, simplement à la question de savoir quand est-ce qu'ils se reposent, eh bien, ils ne se reposent pas pendant le spectacle, à mon sens, parce qu'ils sont toujours à vue du public. Donc, même quand ils sortent du plateau, ils sont quand même présents physiquement. Et après, il faut quand même aussi savoir qu'ils répètent 6 heures par jour, tous les jours. Chaque jour de spectacle, et là pour le coup c'est un peu comparable au travail que peuvent mener les pianistes solistes qui font 4 à 5 heures de gamme par jour pour pouvoir être sûr d'y arriver au moment du spectacle. Donc finalement la figure qu'on voit au moment du spectacle, ça n'est que la énième figure, une figure de plus, une fois de plus, et c'est pas le moment absolument où il faut la réussir, parce que si on est dans cet état d'esprit là, bien souvent on échoue. Donc c'est plus la répétition qui amène ce niveau, en fait, dans le spectacle.
Après cet entretien avec Antoine Biot, le manager de la compagnie de cirque XY, on passe à la rubrique littéraire d'aujourd'hui. Nous vous proposons une rediffusion de l'émission du 20 février 2010 consacrée à Gustav Mahler, Václav Richter.
Rencontre littéraire. Magiciens, monstres, fantômes de l'opéra, professeurs d'énergie, ce ne sont que quelques-uns des innombrables épithètes par lesquels les contemporains de Gustav Mahler voulaient exprimer les divers aspects de la personnalité de cet artiste. Face au miracle de sa musique, il est difficile de ne pas se demander quelles étaient les sources de son inspiration et les conditions dans lesquelles s'est épanoui son génie. Une réponse à ces questions a été récemment donnée par l'écrivain Zdeněk Mahler, qui cherche dans son livre intitulé « Le compatriote Gustav Mahler » à cerner la personnalité de son illustre ancêtre. « Un siècle et demi après sa naissance, Gustav Mahler est toujours avec nous. Ses œuvres figurent dans le répertoire de tous les grands orchestres symphoniques, malgré les moyens exceptionnels qu'exige leur exécution. Les chefs d'orchestre et leurs instrumentistes considèrent ces symphonies monumentales comme des défis. Mahler voyait comme un défi toute son existence. Il n'est pas facile de raconter dans un livre cette existence passionnée. L'écrivain Zdeněk Mahler, auteur d'ouvrages sur plusieurs personnalités dont Mozart, Smetana et Dvořák, est attaché au compositeur par un lien de parenté.
My jsme potom radši nikdy příliš nepátrali.
Nous n'avons pas fait beaucoup de recherches dans ce sens parce qu'il y avait bien sûr toute une série de circonstances qui compliquaient la tâche et pas seulement l'occupation nazie. Cependant, sans parler de cette parenté, j'apporte dans mon livre les preuves que de nombreuses générations de cette famille ont vécu sur le plateau tchéco-morave et se sont répandues aussi dans des villages de régions environnantes. Le grand-père de Gustav, Shimon, c'était une famille nombreuse, avait beaucoup de frères et l'un de ses frères était mon arrière-arrière-grand-père.
L'engouement pour Mahler n'atteint son apogée qu'au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Il faut un demi-siècle pour que le public mondial soit prêt à accepter le message de ce novateur. Mahler doit aussi son énorme popularité aux disques et aux grands chefs d'orchestre qui serviront bien sa musique. Les intégrales de ces symphonies seront enregistrées par Bernstein, Kubelik, Solti, Haitink, Inbal, Neumann. Zdeněk Mahler, lui, découvre le compositeur dès le début des années 1960.
Cela a commencé dans un certain sens en dehors de la musique. Ainsi, en 1960, je me suis rendu à Londres, et c'est à Londres, à Charing Cross, où il y a de grandes librairies, que je suis tombé sur le livre intitulé « The Early Years of Gustav Mahler, les jeunes années de Gustav Mahler » de Donald Mitchell. J'ai ouvert ce livre et j'y ai trouvé une copie de l'acte de baptême de Gustav Mahler, écrit en tchèque. À ce moment-là, ici, Mahler n'était pas encore à la mode, c'est donc de Londres que j'ai rapporté des livres consacrés à Mahler et aussi des enregistrements de ses œuvres.
Gustav Mahler traverse la musique de son temps comme un météore effrayant, mais revigorant. Après lui, rien ne sera plus comme avant. Dans son livre, Zdeněk Mahler retrace par de courts chapitres les principales étapes de l'itinéraire de l'homme devenu en quelque sorte la personnification du passage entre le passé et la modernité.
Vous savez, si je voulais faire une comparaison un peu poussée, je dirais que ce que représente Franz Kafka, prophète dans la littérature, c'est à mon avis, et l'on s'en rend compte en écoutant ses œuvres, Mahler dans la musique.
Zdeněk Mahler évoque d'abord la famille du compositeur, son père Bernard, propriétaire d'une petite distillerie, sa mère Marie, fille d'un riche savonnier. Il suit aussi les premiers pas de l'enfant prodige dans le village de Kalisztě, puis dans la ville de Jihlava où ses parents se sont établis. Son enfance dans une petite ville du plateau tchéco-morave sera décisive pour le reste de la vie de l'artiste. Ce sont les sensations des années de l'enfance qui sont les plus importantes pour la vie de l'homme, dira-t-il plus tard. Tout ce que j'ai développé dans ma création avait été rassemblé dans mon âme au cours des 10 premières années. Le livre nous accompagne d'abord à travers les premières étapes de cette existence qui est remplie jusqu'à ras-bord par la musique et tend vers les sommets. Il raconte les études de Jean Gustav, ses amitiés avec Hugo Wolf et Hans Roth, sa passion pour Richard Wagner et Anton Bruckner, idoles de sa jeunesse. Il n'oublie pas les débuts du jeune Gustav au pupitre d'un mauvais orchestre d'opérette, ses engagements dans les opéras d'Olomouc, de Kassel et de Prague, où il est invité par l'impresario Angelo Neumann, et il le suit également à Budapest, Leipzig et Hambourg, jusqu'au poste de directeur de l'opéra de Vienne à l'apogée de sa carrière. Zdeněk Mahler ne peut pas omettre non plus plusieurs femmes qui ont marqué la vie de Gustav, sa mère, sa sœur Justina, son amie intime Anna von Lindenburg et surtout Alma Schindler, muse viennoise et femme fatale qu'il a fini par épouser, qui lui a donné 2 filles et qui, après la mort de Gustav, a attiré dans son orbite encore d'autres grands artistes. Le livre évoque les premières compositions du jeune Gustave, ses échecs scandaleux face à l'incompréhension du public, mais aussi ses succès, la gestation de ses grandes symphonies et son style inimitable mariant le lyrisme exacerbé à la grimace ironique. Il cherche à donner une image véridique de cet homme passionné, difficile, intrépide, de ce fanatique de la perfection qui a investi toute son inépuisable énergie dans une œuvre titanesque et dans une lutte sans merci contre la médiocrité.
A velmi často tak říkající uměl dělat nepřátele.
Il savait, comme on dit, se faire des ennemis. Il n'est pas possible de le décrire simplement, j'utiliserai même la métaphore suivante, de même que nous avons assisté dans les dernières décennies à la naissance de la philosophie postmoderne et de la poétique postmoderne qui entremêle les genres, les niveaux et les aspects de la connaissance. Tout cela existe déjà dans sa musique et évidemment dans le passé déjà, cela ne plaisait pas.
C'est donc de cette façon que Zdeněk Mahler cherche à décrire et à nous faire comprendre le personnage infiniment complexe d'un grand créateur qui était pourtant rempli de contradictions et dont l'âme était partagée entre l'esprit luminé et la peur de l'inconnu, la gaieté et le désespoir suicidaire, la fermeté virile et l'humour capricieux.
Já jsem se rozhodl psát nelítostně i vůči němu, protože
j'ai décidé d'écrire impitoyablement et d'être ferme même vis-à-vis de Mahler. Peut-être ce lien de parenté m'autorise à nommer les choses par leur nom. En ce sens, je pense avoir saisi son caractère contradictoire, la dichotomie de la personnalité qui est souvent le prix à payer pour le don de génie, mais aussi la condition même d'une impétueuse énergie inventive. Je pense avoir mis cela dans mon livre.
Dernière rubrique du jour, votre rubrique, le courrier des auditeurs, et c'est Alexis Rosenzweig qui s'y colle cette semaine.
Courrier des auditeurs, Alexis Rosenzweig.
Bonjour et bienvenue à l'écoute d'un de vos programmes préférés, celui consacré à votre courrier. Un courrier qui sera principalement consacré au 75e anniversaire de Radio Prague la semaine prochaine. Et c'est d'ailleurs l'objet d'une lettre adressée par Michel Tournier d'Ostende de Belgique qui nous demande comment ça va se passer cet anniversaire et s'il y aura des QSL à cette occasion. La réponse est oui, il y aura une carte QSL spéciale et les auditeurs qui écouteront Radio Prague le 31 août, mercredi prochain, donc recevront cette carte QSL spéciale cachetée que j'ai d'ailleurs devant moi et qui est plutôt pas mal avec le chiffre 75 formé de plusieurs photos qui concernent évidemment la radio, et il n'y aura pas que des cartes QSL, il y aura aussi des pins pour l'anniversaire de 75 ans de Radio Prague. Alors mercredi, comment ça va se passer? Eh bien, il y aura d'abord une conférence de presse qui sera organisée dans le bâtiment de la radio publique ici à Prague, à l'intention des journalistes tchèques et étrangers, pour faire le point sur les émissions internationales à l'heure actuelle. Les journalistes auront l'occasion de voir l'exposition consacrée aux 75 ans de Radio Prague et de visiter les studios des émissions internationales d'où nous émettons actuellement. Et puis, il y aura également et surtout, de 10h à 18h mercredi, un stand de Radio Prague qui sera installé dans le centre de Prague, dans la rue Na Příkopě au numéro 15, dans le premier arrondissement. Et l'équipe sur place distribuera des tracts Radio Prague et fera la promotion des émissions à l'intention des étrangers vivant à Prague sur les fréquences FM, à savoir 92.6 sur Regina et 99.3, c'est notre programme que nous diffusons ici sur Radio France Internationale. Et mercredi, des émissions en direct seront diffusées depuis le stand. Alors, en ce qui concerne la rédaction française, je peux déjà vous dire que nous aurons une invitée qui est une ancienne employée de Radio Prague. Elle s'appelle Pavla Jazeirova. Et nous aurons également un ancien employé de Radio Prague qui est aujourd'hui le correspondant du quotidien Le Monde dans la capitale tchèque, qui s'appelle Monsieur Fabrice Martin. Et en ce qui concerne cet anniversaire, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour le moment. Nous vous en dirons plus dans les prochains jours, mais en tout cas, vous le savez, si vous écoutez le mercredi 31 août, vous recevrez une carte QSL spéciale. Je passe à la lecture de quelques-uns de vos messages envoyés cette semaine, avec d'abord un mail qui nous est envoyé de Talence, de notre fidèle auditeur Hervé Briand, dont je cite le début. « Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la rédaction française de Radio Prague. Ce court rapport pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre émission de dimanche consacrée aux chansons de la Résistance de 1968. L'année dernière, vous aviez illustré un courrier des auditeurs avec la chanson de Jean Ferrat, Camarade, qui fait référence à cette tragique journée. Cette chanson est-elle connue en République tchèque? Et si oui, comment les habitants de votre pays ont-ils réagi ?» Eh bien, la réponse à cette question, c'est que cette chanson n'est pas vraiment connue des Tchèques. D'ailleurs, un collègue tchèque m'a demandé récemment s'il pouvait utiliser une chanson française dans laquelle on parlait de Prague et de l'écrasement du printemps de Prague, et il n'avait jamais entendu parler de cette chanson. La rédaction anglaise l'a diffusée dans le cadre d'une émission spéciale consacrée aux chansons étrangères qui parlent de Prague et de la République tchèque, et apparemment, cette chanson française de Jean Ferrat, une belle chanson, Camarade, a été très remarquée dans cette émission. Suite de vos messages, alors des messages e-mail, internet qui nous ont été envoyés sur à partir du site, et notamment un rapport d'écoute de Maurice Etriard qui a écouté notre programme du 14 août avec notamment l'interview d'Olivier Latry, l'organiste français, qui est l'organiste, l'un des organistes officiels de la cathédrale de Paris. Et Monsieur Maurice Etriard nous écrit qu'il écoute sur Internet, que cela le change, des ondes courtes, c'est différent, mais également très agréable. Bien cordialement et meilleurs souvenirs à tous, sincère salutation. C'est donc signé Maurice Etriard. Bonjour à vous. Et nous espérons que vous avez moins chaud que nous en ce moment à Clermont-Ferrand, parce qu'à Prague, la fin de semaine est difficile. On a dépassé les 36 degrés à Prague. Et quand on n'est pas habitué, c'est un peu compliqué. Un message de René Durand également, qui nous écrit de Orvault en France, dans le 44, et qui nous écrit un commentaire. La ville de Prague semble renommée pour les tournages télé. D'autres séries y ont été tournées. J'attends avec impatience la diffusion de la saga des Borgia à la télévision française. Effectivement, la série Borgia, ce sera l'événement rentrée, l'événement télé de la rentrée en France, et la chaîne privée Canal+ commencera à diffuser cette série consacrée à la famille Borgia. En octobre, nous avions, vous vous en souvenez, interviewé le producteur de cette série qui a été en partie tournée dans la capitale tchèque et dans une petite ville qui se trouve au cœur du pays, à Telč, une très jolie petite ville où ont été tournées plusieurs scènes. Voilà, juste un mot de remerciement à ceux qui nous ont envoyé de belles cartes postales. Je n'arrive pas à déchiffrer si il s'agit de notre très fidèle auditeur Philippe Marsan qui nous envoie une très belle carte postale du Cap Ferret. Et puis j'ai aperçu une autre carte postale qui venait de Soissons, cité du Vaz, et elle est signée Monsieur et Madame Jamais, évidemment, nos très fidèles auditeurs. Merci à vous tous. N'oubliez pas, mercredi, anniversaire de Radio Prague. Soyez fidèles. À très bientôt.
Toutes ces rubriques, évidemment, vous le savez, vous pouvez les retrouver en podcast et également sous forme d'articles sur notre site internet, le www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bon vent. Ahoy. Radio Prague.